La question de Paris, de la ville, mais qui est essentiellement Paris pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'abord chez Balzac. Pourquoi est-ce que le romancier Balzac va choisir Paris comme lieu privilégié de l'investigation romanesque? Tout simplement parce que Balzac va se situer dans une quadruple perspective. La première perspective est historique, c'est-à-dire qu'il va entreprendre de situer Paris et ses mutations selon une causalité historique. Deuxième chose, il va envisager, et il est l'un des tout premiers à le faire, il va envisager la ville d'un point de vue organiciste, c'est-à-dire montrer comment l'interaction des différentes composantes de la ville constitue la vie même de cet organisme, mais détermine les parcours des personnages, les situations, les échanges, les possibilités d'ascension, ou au contraire, de chute, etc., etc. Donc, historicité, organicisme, mais également réservoir littéraire, la ville en quelque sorte comme source d'inspiration permanente, de renouvellement sans fin de l'écriture. Et quatrième perspective, Paris qui devient un véritable mythe. Voilà la grande optique balzacienne qui se constitue. On pourrait évidemment élaborer, se dire à partir de quand est-ce que Balzac va penser cela ou ceci. Prenons la globalité, si vous le voulez bien, en ajoutant un dernier élément que je mentionne pour mémoire, mais il est décisif pour comprendre l'entreprise balzacienne dans son ensemble. Évidemment, Paris se définit aussi par opposition à la province. Paris n'existe en réalité que parce qu'il y a cette dualité Paris-province qui se transcrit, comme vous le savez, dans la comédie humaine, avec scène de la vie parisienne, scène de la vie de province. Bon, il y a également les scènes de la vie de campagne, mais qui jouent un rôle peut-être moins important, en tout cas quantitativement. Qu'est-ce que Paris, au départ, pour Balzac? C'est évidemment cette fameuse source d'inspiration dont je parle, et c'est on va prendre une phrase du premier extrait, de Ferragus, de 1833. Donc vous voyez que ça intervient quand même très tôt dans la production balzacienne. Les romans qui vont entrer dans la comédie humaine sont publiés à partir de 1829. Et dans lequel il dit, c'est ce que je vous ai mis en gras, c'est le deuxième passage en gras dans la page 2, Paris est toujours cette monstrueuse merveille, étonnant assemblage de mouvements, de machines et de pensées, la ville aux 100 000 romans, la tête du monde. Donc, le romancier se situe dans une position privilégiée dans la modernité du 19e siècle, puisqu'il a cet espace parisien, cette sociologie parisienne, cette histoire parisienne qui s'offre à lui et qu'il va entreprendre de détailler. Comment interroger Paris? Eh bien, on peut l'interroger de deux façons, selon Balzac. On peut interroger Paris en tant qu'ensemble architectural, monuments, bâtiments, immeubles, rues, passages, etc., etc. Autrement dit, se livrer à quelque chose qui entre en littérature à ce moment-là, qu'on appellera par commodité, avec beaucoup de guillemets, un roman urbain, faire le roman de la ville. Et on peut l'envisager de manière, bien entendu, complémentaire. L'un ne marche pas sans l'autre, du point de vue de sa population. Population que l'on va répartir selon ses habitats, selon ses professions, selon son niveau de fortune, selon ses antagonismes ou ses complémentarités, et montrer en quoi il y a une véritable dialectique entre la vie de la ville et la vie de ses habitants. Par conséquent, Paris est un pôle énergétique. Ce qui explique qu'il attire vers lui la substance même de la nation. Hein, comme vous le savez, la montée à Paris du jeune homme ambitieux est un motif récurrent dans le roman balzacien. Pas uniquement chez Balzac, faut-il le dire. Et c'est donc cette absorption des énergies provinciales qui ne peuvent pas se réaliser dans l'espace provincial et singulièrement dans l'espace de la ville de province, trop figé, trop fermé, trop statique, trop arriéré. C'est cette absorption de l'énergie provinciale qui vient nourrir l'énergie parisienne et la démultiplier. Bon, il suffit de citer le nom de Rastignac, hein. Mais tant d'autres. Mais qu'en est-il de cette énergie parisienne? Comment est-ce qu'elle est devenue lisible? Eh bien, elle est d'abord lisible sur le visage même des Parisiens, selon Balzac. Il y a une anthropologie parisienne et une ethnologie parisienne que Balzac va entreprendre. Et c'est ce que vous avez dans le deuxième texte, l'extrait de La fille aux yeux d'or, 35. Alors, comme vous le savez sans doute, Ferragus et La fille aux yeux d'or sont le premier et le troisième roman d'une trilogie à l'intérieur de la Comédie humaine, qui est l'histoire des 13, le roman intermédiaire étant La duchesse de Langeais. Donc, vous avez quelque chose de tout à fait remarquable dans La fille aux yeux d'or. Vous avez un très long prologue, d'où est extrait ce passage, dans lequel Balzac se livre à une sorte, si vous voulez, d'exposé didactique qui sert d'assise et de préambule à son roman, mais qui sert également de préambule à l'ensemble de la Comédie humaine, si vous voulez. Hein ? C'est précisément d'ailleurs à partir de 35 que l'architecture de la Comédie humaine s'est mise en place dans l'esprit de Balzac. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent partout les pores, l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux? Non pas des visages, mais bien des masques. Masque de faiblesse, masque de force, masque de misère, masque de joie, masque d'hypocrisie, tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d'une haletante avidité. Que veulent-ils? De l'or ou du plaisir? Voilà donc cette lisibilité sur le visage même des Parisiens de l'effet Paris, qui entraîne inexorablement ses habitants dans une quête frénétique dont seuls les meilleurs vont sortir triomphants. On sera véritablement là dans un jeu de gagnants et de perdants. Carole, tu parlais du perdant châle. Là, on va avoir des tas de perdants dans la Comédie humaine, en même, qui vont faire écho aux gagnants. Hein ? Vous êtes donc dans un espace qui est à la fois d'une vitalité extrême, mais d'une dangerosité non moins extrême. À Paris, on risque sa peau. Enfin, moralement au moins, parfois aussi physiquement. Donc, Paris a inventé en quelque sorte une population nouvelle, dont le roman moderne se doit d'être à la fois le tableau et l'interprète. Page 3, donc autre passage que je vous ai mis en gras de ce prologue de La fille aux yeux d'or, hein, tout en haut. Là, donc, à Paris, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Cette nature sociale toujours en fusion semble se dire après chaque œuvre finie à une autre, comme se le dit la nature elle-même, comme la nature, cette nature sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel cratère. Donc cette métaphore ignée, hein, qui fait de Paris une fournaise moderne, hein, on voit très bien ici tout un ensemble de mythes qui sont en train de se constituer. Et pour Balzac, Paris sera à la fois un océan dans lequel le plongeur littéraire doit se mouvoir. Ce sera ce cratère en fusion, ce sera aussi une cuve dans d'autres romans, etc., etc. Ce qui fait la spécificité de Paris, selon Balzac, c'est que c'est justement la ville du monde dans laquelle cet aspect énergétique est poussé le plus loin. Voilà pourquoi elle est, c'est ce que vous avez un peu après, la tête du globe. Il disait la tête du monde dans Ferragus. Un cerveau qui crève de génie et conduit la civilisation humaine. Et c'est vraiment avec le roman balzacien qu'en littérature fait apparaître le thème de Paris ville phare, de ville en elle-même déjà une ville monde, et qui est le point de convergence, en même temps que le modèle, la référence. Et cela, nous le retrouverons tout à l'heure avec notamment Victor Hugo, qui, avec d'autres perspectives idéologiques, reprendra à son compte cette idée-là. Donc, dès lors, ce n'est qu'à Paris qu'on peut se réaliser. Voilà pourquoi je vous ai mis parmi mille autres citations de la Comédie humaine, l'une d'Illusion perdue, que vous avez après, la deuxième partie d'Illusion perdue, un grand homme de province à Paris, avec Lucien de Rubempré, qui est d'une certaine façon l'anti-Rastignac. Rastignac, c'est celui qui réussit. Comme vous le savez, il finit ministre de Louis-Philippe, et il épouse la fille du banquier Nucingen, après avoir été l'amant de la mère, ce qui permet de rester en famille. Et en revanche, Lucien de Rubempré, lui, après avoir fait une trajectoire météorique à Paris, de réussite littéraire et journalistique particulièrement époustouflante, va rentrer piteusement dans sa ville d'origine, c'est-à-dire à Angoulême. Balzac fonctionne souvent en diptyque comme ça. Vous avez des situations romanesques qui vont s'opposer d'un roman à l'autre, ou des personnages qui vont également fonctionner de cette manière-là. Donc que conclut Lucien de Rubempré dans une lettre à sa sœur ? Voilà Paris où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s'assimile ce qui lui est propre. Donc voilà pour un premier aspect balzacien. Premier aspect balzacien dont la postérité va évidemment être tout à fait considérable. Et parmi la postérité de ce thème de Balzac, du Paris balzacien comme ville du monde, ville dont le perpétuel renouvellement est en quelque sorte imprime son rythme à l'humanité moderne, vous avez Victor Hugo. Alors Victor Hugo, dans au moins deux textes. Alors, je vous ai mis un passage des Misérables, donc des 1862, qui commence par « De limite à Paris, point. Aucune ville n'a eu cette domination qui bafoue parfois ceux qu'elle subjugue. » Et passons directement à la page 4. « Que fait Paris ? Paris fait parler sa langue à la bouche universelle, et cette langue devient verbe. » En quelque sorte, Paris qui dicte l'évangile des temps modernes. Il n'a pas mis de majuscule à verbe, mais il aurait pu. Il construit dans tous les esprits l'idée de progrès. Et c'est là que vous avez à la fois la continuité et la différence Balzac-Hugo. Pour Balzac, l'observateur du phénomène parisien, du fonctionnement organiciste, créateur du mythe parisien. S'agit-il de progrès ? Pas au sens hugolien. Car en effet, la machine parisienne, à haute consommation d'énergie, entraîne la société dans un mouvement frénétique. Et par conséquent, produit une usure considérable. Il y a accélération du temps chez Balzac, mais qui n'est pas forcément organisé selon un axe du progrès. Les mutations parisiennes sont des mutations qui, on y reviendra autrement tout à l'heure, fonctionnent par destruction et recréation, mais dont on peut se demander in fine si la somme n'est pas nulle. Alors que chez Hugo, il y a un gain qualitatif permanent. Donc tel est ce pari, les fumées de ces toits sont les idées de l'univers. Tas de boue et de pierre si l'on veut, mais par-dessus tout, être moral, il est plus que grand, il est immense. Pourquoi ? Parce qu'il ose. L'immensité de Paris, selon Balzac, et l'immensité de Paris, selon Hugo, ne sont pas exactement les mêmes. Ça ne se recouvre pas exactement. L'autre texte que je voulais mentionner de Hugo, qui lui est de 1867, est un texte absolument extraordinaire dont je ne peux que vous recommander la lecture, puisque c'est l'introduction que Victor Hugo a donnée au Paris Guide de l'exposition universelle de 1867. Et ça a l'air tout à fait paradoxal, puisque, comme vous le savez, Victor Hugo est en exil à Guernesey à ce moment-là. Et c'est quand même à lui que l'on confie la rédaction de ce texte officiel, qui est une extraordinaire, magnifique introduction au guide officiel de l'exposition universelle de 1867. Et que dit Victor Hugo en substance dans ce Paris 1867 ? Eh bien, exactement la même chose que ce qu'il disait dans Les Misérables en 1862, mais en amplifiant et en inscrivant encore plus nettement Paris dans l'avenir. Et d'ailleurs, lorsqu'il présente Paris, les premières pages, c'est Paris dans l'avenir. Non pas le Paris de l'Expo de 67, non pas le Paris historique, mais le Paris à venir. Et c'est après cet avenir de Paris dans lequel il dit tout simplement que Paris sera encore plus qu'elle ne l'est la ville de la civilisation. Et ce n'est qu'après avoir posé en matière de pétition de principe cette équivalence Paris égale civilisation qu'il va revenir sur le passé de Paris. Et ce passé de Paris, il va le retracer en montrant la progression permanente. Comme si Paris n'était pas autre chose que l'histoire en marche, dont la lisibilité incombe à l'écrivain. Seul l'écrivain est habilité, selon Victor Hugo, à donner véritablement une vision de Paris dans sa diachronie et dans sa synchronie. Lorsque Victor Hugo dit cela en 1867, il ne fait pas autre chose que de poser une question fondamentale qui a été posée par Balzac, qui va être posée par Zola, et que Hugo pose à sa manière, et vous voyez que là, chronologiquement, nous sommes sur une ligne directrice tout à fait intéressante. Qu'en est-il des mutations urbanistiques de Paris tout au long du XIXe siècle? Et évidemment, qu'en est-il de l'impact des travaux d'Haussmann? Balzac, évidemment, n'a pas connu les travaux d'Haussmann, il meurt en 1850. Mais vous n'ignorez pas que les transformations de Paris, que les destructions de vieux bâtiments, que le tracé de nouvelles rues ont commencé bien avant Haussmann. Et Balzac ne peut pas ne pas le savoir, ne peut pas ne pas l'observer, et surtout ne peut pas ne pas le prendre en compte dans le roman. Car en effet, et c'est ce que je vous avais mis dans un des prologues, c'est la première citation de En guise de prologue 2, page 1. Encore quelques jours, et les piliers des Halles auront disparu. Le vieux Paris n'existera plus que dans les ouvrages des romanciers, assez courageux pour décrire fidèlement les derniers vestiges de l'architecture de nos pères, car de ces choses, l'historien grave tient peu de compte. Texte de 1845. Qui n'est pas dans la Comédie humaine, qui est un article de Balzac. C'est le romancier qui devient le dépositaire le témoin du Paris disparu. Si le roman ne prend pas en charge ce qui disparaît de Paris, eh bien cette mémoire parisienne sera définitivement morte. Et je vous ai mis évidemment en écho Baudelaire derrière, je n'insiste pas. Hein. Mais vous voyez que nous sommes à 10-12 ans de distance. Donc, préoccupation balzacienne. Alors, qui semble aller en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Hein, la ville de Paris, ce constant renouvellement, ce bouillonnement, cette fusion, cette circulation énergétique qui semblerait ramener les questions de la destruction du Paris ancien à l'anecdote. Pas du tout, selon Balzac. Pas du tout. Il doit y avoir trace de ce qui fut. Doublement. D'abord en maintenant autant que possible des lieux parisiens qui sont autant de buts témoins de ce que Paris fut, et aussi par l'écriture. Donc, écrire Paris, c'est aussi écrire le tombeau au sens littéraire de Paris. Ce qui vous explique que vous avez quelque chose de assez rare, à la fois dans le roman du XIXe siècle en général et chez Balzac en particulier, ça va être la reprise dans deux romans différents de la description d'un de ces vieux quartiers de Paris, celui du Tourniquet Saint-Jean. C'est ce que vous avez page 4. D'abord, dans le roman Une double famille de 32, mais qui était pour l'essentiel déjà paru en 30, sous un autre titre, La femme vertueuse. Et ensuite, dans un roman qui est resté inachevé, Les petits bourgeois, et qui a été publié de manière posthume en 1855. Donc, la rue du Tourniquet Saint-Jean. Rue du Tourniquet Saint-Jean, qui est caractéristique, selon Balzac, d'un Paris médiéval, et dont la description se trouve résumée dans la dernière phrase que vous avez en gras. Presque toutes les rues de l'ancien Paris, dont les chroniques ont inventé la splendeur, ressemblaient à ce dédale humide et sombre où les antiquaires peuvent encore admirer quelques singularités historiques. Alors, antiquaire, au sens de celui qui s'intéresse aux choses anciennes. Hein ? Et Balzac se considère à lui-même comme un antiquaire de Paris. Donc, écriture de la nostalgie. Écriture d'une sorte de poésie d'un Paris ancien qui est en train graduellement de disparaître. Oui, mais regardez maintenant l'extrait suivant. D'abord, un clin d'œil ironique de Balzac, le Tourniquet Saint-Jean, dont la description parut fastidieuse en son temps au commencement de l'étude intitulée « Une double famille dans les scènes de la vie privée », ce naïf détail du vieux Paris n'a plus que cette existence typographique. Autrement dit, depuis, ça y est, tout ça a disparu. Ce n'est plus qu'un monument de papier. La construction de l'hôtel de ville tel qu'il est aujourd'hui balaya tout un quartier. Donc on va revenir sur ce secteur parisien, mais une nouvelle idée va apparaître. Qui n'a pas constaté dans cette jolie capitale les effets du patriotisme des bourgeois et des nobles pour leur ville en y admirant des constructions pleines de caractère et d'originalité ? Bien, est-ce que ça veut dire le renouvellement, les nouvelles constructions, la modernisation urbaine, ça a du bon ? La spéculation hideuse, effrénée, qui d'année en année abaisse la hauteur des étages, découpe un appartement dans l'espace qu'occupait un salon détruit, qui supprime les jardins, influera sur les mœurs de Paris. On sera forcé de vivre bientôt plus au dehors qu'au dedans. La sainte vie privée, la liberté du chez-soi où se trouve-t-elle ? Elle commence à 50 000 francs de rente. Encore peu de millionnaires se permettent-ils le luxe d'un petit hôtel, défendu par une cour sur la rue, protégé de la curiosité publique par les ombrages d'un jardin ? En nivelant les fortunes, le titre du code qui régit les successions a produit des phalanstères à moellons qui logeaient 30 familles et qui donnent 100 000 francs de rente. Vous voyez la grande idée balzacienne maintenant. C'est la spéculation qui est en train de transformer Paris. Ce n'est pas simplement le souci de la modernisation. Ce n'est pas simplement l'effet de l'activité parisienne dans tous les plans, politiques, sociaux, économiques, culturels, que sais-je. Non. Il y a spéculation immobilière. Dès lors, la ville est devenue un enjeu financier. Et c'est l'action de la spéculation qui vient remodeler la ville. C'est exactement ce que vous dit Razzola avec les travaux d'Haussmann. Donc, le travail du romancier qui vise à conserver par l'écrit ce qui fut est aussi une prise de position idéologique, est aussi une remise en cause de ce travail de sape occasionné par la logique financière capitalistique du XIXe siècle. Autre façon de dire que la ville est vraiment rentrée dans la modernité, mais une modernité qui est à la fois destructrice et créatrice de profit. Ce que Balzac est en train de mettre en scène, c'est la conversion de la pierre en or. Non, ça c'est pas vrai. C'est bien pour ça que Balzac est moderne. Donc vous voyez, cette confrontation d'un retour d'écriture sur le même endroit de Paris vous montre la façon dont Balzac change le regard. Mais est-ce à dire pour autant que Balzac condamne toute éradication de vieux quartiers, de vieux immeubles, de rues insalubres? Nullement. Et c'est là que le point de vue de Balzac est un point de vue complexe, nuancé, qui prend en compte les différents aspects et les différentes composantes de la réalité urbaine. D'où ce passage de la cousine bête que je vous ai mis en page 5, où là, il évoque effectivement ce pâté de maison qui se trouvait le long du vieux Louvre. Incidemment, c'est là que se réunissait le petit cénacle de Gérard de Nerval. Donc, et on avait effectivement le Louvre et puis une espèce de masure pratiquement accolée au Louvre qui se trouvait à peu près à l'emplacement de la pyramide du Louvre d'aujourd'hui. Hein? C'était à peu près là. Et il y avait quelques ruelles sombres, humides, etc. Et puis quelques maisons à différents stades du délabrement. Bon, on a mis très longtemps à détruire cela. Donc, voyez le début. Hein. L'existence du pâté de maison qui se trouve le long du vieux Louvre est une de ces protestations que les Français aiment à faire contre le bon sens, pour que l'Europe se rassure sur la dose d'esprit qu'on leur accorde et ne les craigne plus. Peut-être avons-nous là, sans le savoir, quelques grandes pensées politiques. Lorsqu'on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort et que le regard s'engage dans la ruelle du Doyenné, c'était dans l'impasse du Doyenné que se réunissaient Nerval et ses amis. Il y avait une ruelle du Doyenné et une impasse du Doyenné. L'âme a froid, l'on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s'y passer le soir, à l'heure où cette ruelle se change en coupe-gorge et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. Ce problème effrayant par lui-même devient horrible quand on voit que ces prétendues maisons ont pour ceinture un marais du côté de la rue de Richelieu, un océan de pavés moutonnant du côté des Tuileries, de petits jardins, des baraques sinistres du côté des galeries et des steppes de pierre de taille et de démolition du côté du vieux Louvre. Voilà bientôt 40 ans que le Louvre crie par toutes les gueules de ses murs éventrés, de ses fenêtres béantes, extirpé, ses verrues de ma face. Donc, d'un côté, Balzac en garde la mémoire typographique, et de l'autre, évidemment, il appelle à la démolition. Pourquoi ? Parce que ce vieux quartier est l'image d'un Paris ancien, médiéval, qui est mal placé, parce qu'il est à côté du Louvre, et qu'il vient faire tâche. Dans d'autres endroits de Paris, la survivance de pâtés de maison anciens serait tout à fait admissible, voire serait louée. C'est donc la question du spectacle urbain qui est ici essentielle. Le pittoresque du vieux Paris, c'est bien là où, en quelque sorte, ça ne vient pas jurer esthétiquement avec d'autres monuments. Donc, il y a, chez Balzac, c'est relativement peu développé dans l'ensemble de la comédie humaine, mais vous avez comme ça, à quelques moments de tel ou tel roman, cette idée de ce qu'on pourrait appeler, justement, l'esthétique de l'urbanisation. Et donc, on a sans doute reconnu l'utilité de ce coupe-gorge et la nécessité de symboliser au cœur de Paris l'alliance intime de la misère et de la splendeur qui caractérise la reine des capitales. Donc voilà le rapport ambivalent que Balzac peut entretenir avec la ruine, la masure, la ville ancienne. Alors qu'est-ce que ça va donner chez Hugo ? Alors Hugo, lui, lorsqu'il écrit son Paris Guide, enfin son introduction à Paris Guide, là pour le coup, les travaux d'Haussmann ont commencé. Mais ces travaux d'Haussmann, Hugo ne les connaît que par ouï-dire, que par lecture, puisqu'il n'a pas vu Paris. Il n'a pas vu Paris depuis 1851. Et donc, il dit dans Paris Guide, je vais vous parler d'un Paris dont je suis absent, que je ne connais pas, mais dont j'ai entendu parler. Et que va-t-il dire de ce nouveau Paris ? Eh bien, en fait, il va le traiter comme une sorte de transition. Transition entre le Paris plus ancien qu'il connaissait et qui se trouve, pour l'essentiel, décrit dans Les Misérables, puisque, comme vous le savez, l'intrigue des Misérables commence en 1815 et se termine après les barricades de 1832. Autrement dit, le Paris des Misérables, c'est le Paris de Balzac. Autrement dit, le même Paris dont la comédie humaine est en train de dire qu'il y a un certain nombre de modifications qui s'exercent, dont Hugo est parfaitement au courant. En revanche, le Paris dont veut vraiment parler Hugo, c'est le Paris de l'avenir. Donc, il se pose la question de savoir qu'en est-il de ce Paris d'aujourd'hui, entendez celui de l'Expo universelle, dont je ne suis pas moi-même le témoin, dont je n'ai pas parcouru les nouvelles rues, les nouvelles avenues, dont je n'ai pas vu les nouveaux bâtiments, les nouveaux monuments, et dont je vais pouvoir dire, puisque je suis à ce point extérieur, la chose suivante, le nouveau Paris, entendez celui de Napoléon III, est un Paris qui vise au contrôle de la population parisienne. Autrement dit, il va vous faire une lecture politique. Ce qui est finalement assez osé dans le guide officiel du Paris de l'exposition universelle de 1867, voulu par Napoléon III pour glorifier l'Empire. Alors, je vais vous lire un passage, non pas de Paris Guide, mais un passage qui explique ce qu'il va dire dans le Paris Guide, qui est un poème de 1853, où évidemment vous avez l'écho de ce qui va être entrepris par Haussmann. Alignement, tel est le mot d'ordre actuel. Paris percé par toi de part en part en duel, reçoit tout au travers du corps 15 ou 20 rues. Rêver d'une caserne utilement accrue, le vieux Paris n'est plus qu'une rue éternelle qui s'étire élégante et belle comme lit en disant Rivoli, Rivoli, Rivoli. Que condamne ici Hugo ? La ligne droite. La percée de l'espace urbain en autant de lignes droites. Ça avait commencé avec Sous Louis-Philippe. C'est radicalisé par Haussmann. Alors, est-il ennemi de la ligne droite par principe géométrique ? Pas du tout. Il assimile la ligne droite à la traversée de l'espace urbain pour pouvoir mieux encadrer, contrôler la population. C'est la militarisation de l'espace urbain. Donc, la ville est devenue un corps blessé, hein, Paris percé par toi de part en part. Donc, ce corps blessé de l'espace parisien, cette mutation qui marque l'emprise du pouvoir politique de la manière la plus directe, la plus évidente du point de vue de Hugo, a une autre conséquence. Qu'est-ce qui est désormais favorisé dans l'espace parisien ? C'est la circulation. C'est la facilité. Et ça, c'est le positif du négatif. L'espace moderne, l'espace urbain moderne, pardonnez-moi, c'est l'espace de la circulation. Cette circulation qui fait que les grandes avenues sont des artères qui vont donc pouvoir irriguer de manière nouvelle l'espace urbain, donc la vie, donc le progrès, etc. Voilà comment ce qui était une volonté de contrôle politique donne naissance, à contrario, à un progrès qui sera celui de la civilisation, de l'humanité, de la liberté, et vous pouvez dérouler tout le paradigme que vous voulez. En réalité, Haussmann et Napoléon III ont travaillé contre eux-mêmes. Donc finalement, le corps blessé va se retourner en corps assaini et corps libéré pour le progrès. Du coup, que dit-il ? Au moment où nous sommes, donc ça c'est 1867, hein, ça c'est dans le Paris Guide. Au moment où nous sommes, la coalition nocturne des vieux préjugés et des vieux régimes triomphe et croit Paris en détresse, à peu près comme les sauvages croient le soleil en danger pendant l'éclipse. Extraordinaire comme formule. Hein ? Nous sommes dans une éclipse parisienne, mais d'où déjà la lumière est en train de poindre. Et cette lumière parisienne, c'est celle de l'avenir, celle par laquelle Hugo a commencé sa présentation de Paris au début du Paris Guide. En d'autres termes, Paris, plus que jamais, va redevenir la ville lumière. Comme quoi la fête impériale peut avoir un résultat paradoxal. Alors le troisième romancier, à l'évidence, qui va reprendre à son compte le tableau et l'analyse des mutations urbaines, c'est Zola, avec la curée, et où là, le point de vue idéologique de Zola va gouverner le tableau. De la même manière que le point de vue idéologique de Hugo, vous voyez, retourner contre les travaux d'Haussmann leur finalité, hein, et leur assigner une finalité non perçue comme telle. Alors, Zola, lui, va prendre le problème d'une manière différente. Il va reprendre l'idée balzacienne du travail destructeur de la spéculation et va le radicaliser. C'est ce que vous avez dans l'extrait numéro 7, hein, page 5. Spéculation qui est à la fois le produit nécessaire du coup d'État du 2 décembre 1851, dont je vous rappelle que pour Zola, il signifie qu'une double circulation frénétique va pouvoir se mettre en place, ou plus exactement s'accélérer, c'est celle de l'or et de la chair. En d'autres termes, le coup d'État du 2 décembre 1851, c'est la porte ouverte à la généralisation de la prostitution dans tous les domaines. L'Empire allait faire de Paris le mauvais lieu de l'Europe. Il fallait à cette poignée d'aventuriers qui venaient de voler un trône, un règne d'aventure, d'affaires véreuses, de consciences vendues, de femmes achetées, de souleries furieuses et universelles. Voilà ce qu'est le nouveau Paris. Ce qui était la fournaise balsacienne devient une sorte de tripot, de maison close et de la démultiplication de l'orgie. Et la circulation et l'accroissement de l'or vont être démultipliés par les travaux d'Haussmann. C'est-à-dire que c'est la spéculation qui est à l'origine des travaux d'Haussmann, selon Zola. C'est pas la seule, mais c'est l'origine principale. Dès lors, l'urbanistique moderne est une foire d'empoigne, pardonnez-moi, un champ de foire dans lequel chacun essaye de grappiller le plus de profit possible. Démolition, achat de terrain, reconstruction, etc., etc. Et ce, à un rythme de plus en plus soutenu. En somme, et c'est ce que vous avez, page 6, tout en haut, hein, on voit bien la nouvelle conversion zolienne de la pierre en or. Hein. Les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. Et un peu plus bas, plus d'un quartier va fondre et il restera de l'or aux doigts des gens qui chaufferont et rumeront la cuve. Et cela est vu, alors c'est quelque chose que vous avez, qui est récurrent dans les Rougon-Macquart, hein, c'est le point de vue panoramique sur Paris, puisque la Saccard, vous savez que c'est son nom de guerre, c'est son nom d'emprunt, hein, c'est Aristide Rougon, c'est un des trois frères Rougon de la fortune des Rougon. Et Aristide Saccard, donc, a une vue surplombante sur Paris, comme Rastignac avait une vue surplombante sur Paris à partir du cimetière du Père Lachaise à la fin du Père Goriot. Et cette vue surplombante vous donne donc une description panoramique, et vous avez dans les Rougon-Macquart plusieurs descriptions panoramiques de romans de Paris, pardonnez-moi. Il y en a une dans l'Assommoir, du haut de la colonne Vendôme. Il y en a dans Une page d'amour, etc., etc. Bon. Donc, cette vision panoramique se fait selon la projection sur Paris du grand plan napoléono-haussmannien. Alors, on va lire le passage un petit peu plus long, mais il est décisif. Donc, après, plus d'un quartier va fondre. Hein. Ce grand innocent de Paris, vois donc comme il est immense et comme il s'endort doucement, ces bêtes, ces grandes villes. Il ne se doute guère de l'armée de pioches qu'il attaquera un de ces beaux matins. Et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si fort sous le soleil couchant s'ils savaient qu'ils n'ont plus que 3 ou 4 ans à vivre. Là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en 4. Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Ils dégagent le Louvre et l'hôtel de ville. Jeu d'enfant, que cela. C'est bon pour mettre le public en appétit. Quand le premier réseau sera fini, alors commencera la grande danse. Le second réseau trouera la ville de toutes parts pour rattacher les faubourgs au premier réseau. Les tronçons agoniseront dans le plâtre. Une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant 100 000 terrassiers et maçons, traversés par d'admirables voies stratégiques qui mettront les forts au cœur des vieux quartiers, les forts militaires qui entourent Paris. Hein. Il y aura un troisième réseau. Celui-là est trop lointain, je le vois moins, mais ce sera de la folie pure, le galop infernal des millions, Paris saoulé et assommé. Donc vous voyez la réduction zolienne de cette grande entreprise de métamorphose du tissu urbain en une opération à la fois de viol de la ville et de constitution de profit. En somme, ce que Zola semble nier à ce moment du roman, ce sont toutes les retombées bénéfiques de cette mutation de l'espace parisien, parce qu'il le rattache au péché originel du coup d'État, au péché originel du viol de la République, et qu'il affecte d'un coefficient négatif toutes les entreprises du Second Empire. Mais c'est un point de vue idéologique. C'est pour ça que vous avez tellement de catastrophes dans les Rougon-Macquart, des faillites, le krach boursier dans l'argent, la catastrophe minière dans Germinal, que sais-je. Hein? Parce que il y a une volonté zolienne de faire du Second Empire une époque historique de mort, ou à tout le moins condamnée à mort. D'où le statut du roman La Débâcle, qui narre à la fois, qui est le 20e, le dernier roman des, enfin, le 19e, pardonnez-moi, le 19e roman, le dernier de la saga historique, parce que le docteur Pascal se situe dans une histoire plus utopique, qui est celle de la République à venir. Dans La Débâcle, vous avez la guerre de la défaite de 70, la proclamation de la République, mais la Commune. Et la Commune, nouvelle destruction de Paris par le fer et par le sang. Mais qui est, au sens propre du mot, une apocalypse. C'est-à-dire ce qui est détruit pour que tout renaisse. Une fin et un commencement. Et il est tout à fait symbolique pour Zola que ce qui se détruit en partie pour que tout renaisse, c'est Paris. Ce Paris qui a été métamorphosé par les grands travaux. Hein? En revanche, les personnages, et en particulier les personnages les plus pervers, les personnages les plus douteux sur le plan moral, eux vont jouir de ce nouveau Paris. C'est le passage que vous avez juste en dessous. Les amants avaient l'amour du nouveau Paris. Qui sont les amants? Les amants, c'est Renée Saccard, l'épouse de Maxime, et son neveu Maxime, d'Aristide, l'épouse d'Aristide et son neveu Maxime, avec lequel elle est dans une relation incestueuse. Donc vous voyez, le vice, la perversion sexuelle est au cœur du roman, et ce sont ces amants-là qui aiment le nouveau Paris. Vous voyez l'équivalence. Paris prostitutionnel, aimé par un couple incestueux. Les amants avaient l'amour du nouveau Paris, ils couraient souvent la ville en voiture, faisaient un détour pour passer par certains boulevards qu'ils aimaient d'une tendresse personnelle, les maisons hautes à grandes portes sculptées, chargé de balcons où luisaient en grandes lettres d'or des noms des anciennes, des raisons sociales les ravissaient, pendant que le coupé filait, ils suivaient d'un regard ami les bandes grises des trottoirs, larges, interminables, avec leurs bancs, leurs colonnes bariolées, leurs arbres maigres. Cette trou éclair qui allait au bout de l'horizon, là, pour le coup, la ligne droite, oui, c'est bien, hein. Se rapetissant et s'ouvrant sur un carré bleuâtre du vide, cette double rangée ininterrompue de grands magasins où des commis souriaient aux clientes, ces courants de foule piétinant et bourdonnant les emplissaient peu à peu d'une satisfaction absolue et entière, d'une sensation de perfection dans la vie de la rue. Mais si on ne sait pas que ce couple est un couple incestueux, on pourrait croire que c'est une apologie du nouveau Paris. Pas du tout. Pas du tout. Hein? Alors, comment est-ce que Zola va récupérer Paris? Parce que, évidemment, il sait très très bien que le Paris nouveau, celui des travaux d'Haussmann, est vraiment devenu la capitale du XIXe siècle. Il ne peut pas ne pas le savoir. Donc il va falloir sauver Paris. Il faut sauver Paris, mais par un autre roman. Et ça, c'est un roman que peut-être vous connaissez moins, qui fait partie de la trilogie des trois villes, qui sont Lourdes, Rome et Paris, dans lesquels vous avez un personnage récurrent qui s'appelle Étienne Froment, qui est un prêtre, mais qui perd la foi après en avoir fait l'expérience à Lourdes, puis à Rome, et qui revient à Paris, et qui donc là va être confronté au Paris moderne. Et ce roman de 1898, c'est véritablement le nouveau regard de Zola sur Paris, où vont se combiner à la fois ce qu'on pourrait appeler l'optimisme naturaliste républicain de Zola, appuyé sur la notion de progrès, et ce qu'on pourrait appeler toute la filiation des textes littéraires du XIXe siècle qui valorisent Paris comme ville-lumière, ville de la fraternité, ville de la liberté, etc., etc. Autrement dit, le Paris issu de la Révolution française qui va se trouver repris, réexaminé, réévalué du point de vue zolien. Et donc, tout Paris se retrouve dans Paris de 1898. Un Paris tout de contraste, d'opposition, tout d'agitation sociale, politique et culturelle. Un Paris qui bouillonne. Un Paris dans lequel les conflits sont devenus de plus en plus forts, de plus en plus nets. Il y a évidemment le souvenir de la Commune. Mais un Paris qui, du fait même de cette vie bouillonnante, est redevenu un Paris lavé du péché originel du coup d'État du 2 décembre 1851. Car l'apocalypse de la Commune, de la débâcle militaire et de la Commune, a lavé le péché. Nous sommes dans la possibilité d'un nouveau départ de l'humanité. Autrement dit, c'est l'avenir hugolien relu par Zola. Donc vous voyez, je vous ai mis deux passages un peu contrastés. Hein, dans le premier, vous avez une sorte de vision de Paris par Pierre Froment, qu'il avait traversé tout l'éclat insolent du Paris financier, du Paris politique et mondain. Il aboutissait enfin au crépuscule à ce Paris Gomorre, à ce Paris Sodome, s'allumant pour la nuit, pour les abominations de cette nuit complice dont la cendre fine peu à peu noyait l'océan des toitures et l'exécrable monstruosité de cela clamait sous le ciel pâle où scintillaient les premières étoiles pures et tremblantes. Bon, voilà donc là le texte hein, de la condamnation de Paris comme héritière des deux villes bibliques où triomphait le vice. Oui, mais à cela s'oppose le passage suivant où Pierre, revenant en quelque sorte sur son propre rapport à Paris, réexaminant Paris, repensant Paris à la lumière de toute l'histoire, singulièrement du XIXe siècle, mais aussi de toute l'histoire des romans de Zola avant, hein, va voir dans Paris la ville où l'avenir est en train de se dessiner et de se décider. Qu'importait dans la politique les tares des hommes, les mobiles d'égoïsme et de jouissance, si de son pas lent et obstiné, l'humanité marchait toujours. Qu'importait cette bourgeoisie corrompue et défaillante, aussi moribonde à cette heure que l'aristocratie dont elle a pris la place, si derrière elle montait sans cesse l'inépuisable réserve d'hommes qui surgissent du peuple des campagnes et des villes. Autrement dit, Paris redevient le foyer qui attire, le foyer qui va revivifier, qui va se renourrir de l'énergie vitale des campagnes et des villes. Qu'importait la débauche, la perversion de trop d'argent, de trop de puissance, la vie raffinée, dissolue, la lie humaine tombée au fond de la cuve, vous voyez la cuve qu'on avait tout à l'heure dans la curée, hein, c'est la même. Et il ne fallait pas vouloir que visiblement chaque jour le bien triomphât, car souvent des années étaient nécessaires pour que de la fermentation louche se dégageât un espoir réalisé dans cette opération de l'éternelle matière remise au creuset, demain refait meilleur. Paris 1898, c'est le Paris moderne, nouveau, républicain, humanitaire, c'est le Paris de l'avenir de Hugo. Donc, vous voyez que Zola reprend ses propres métaphores, mais les recombine d'une nouvelle manière et inverse les signes. Pourquoi ? Tout simplement pas, parce que le Second Empire a disparu. Et donc, le Paris d'Haussmann se trouve réhabilité, ce nouveau Paris qui, de toute façon, ne peut pas être autre chose que le Paris d'Haussmann. Il est impossible de revenir en arrière. Eh bien, ce Paris d'Haussmann va se trouver être au service de l'humanité en marche. Donc, vous voyez, tout ceci tracé, évidemment, à grands traits, un peu à la louche, pardonnez-moi, mais vous voyez que sur la longue durée du XIXe siècle, hein, la manière dont le roman prend en charge la capitale, hein, combine une vision mythique, une analyse historique, une analyse sociologique, un décortiquage organiciste, mais place tout cela dans la perspective de la capitale du monde. Hein ? Si Paris est la ville par excellence, la nouvelle Urbs, c'est parce qu'elle est la Rome des temps modernes. Et c'est vers cette Rome que tous les chemins conduisent. Je vous remercie.